d'être aujourd'hui parmi vous pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est la justice prédictive. Et ce qui me vaut d'être là aux côtés du professeur Garapon, c'est le fait que mon barreau a décidé de tester un de ses outils l'an dernier, à la fin de l'année passée. Je me suis toujours beaucoup intéressé aux nouvelles technologies dans le métier d'avocat que je pratiquais, et lorsque je suis devenu bâtonnier en 2015, on parlait déjà de l'intelligence artificielle appliquée au droit. Elle est arrivée plus tard, sans doute, au niveau du droit que dans d'autres domaines de la société, parce que le droit diverge d'un pays à l'autre. C'est donc plus difficile de mettre en place des solutions universelles, et la matière est difficile aussi parce que sous un même concept on peut trouver des terminologies différentes dans les différents pays. Je pense par exemple aux différences qui peuvent exister pour des réalités semblables, des différences de dénomination entre la France et la Belgique dans le droit de l'insolvabilité. Et donc je vois à ce moment où je suis bâtonnier que des gros cabinets d'avocats, surtout américains, sont occupés à investir des sommes considérables dans des outils d'intelligence artificielle. Et l'inquiétude qui naît en moi est de découvrir que peut-être, dans un avenir relativement proche, va se créer un barreau à deux vitesses. Un avec des gros cabinets disposant de moyens importants qui disposeront d'outils leur permettant d'être extrêmement efficaces, et d'autres qui ne le seraient pas parce que n'ayant pas les moyens économiques d'acquérir ces outils. J'ai donc plaidé, notamment au sein de l'Assemblée générale d'avocats.be, pour qu'on fasse ensemble l'acquisition de manière collective au niveau des avocats francophones et germanophones. Et quand on fait ce genre de projet, on essaye toujours aussi d'embarquer les amis néerlandophones, puisqu'ils sont plus nombreux que nous et que c'est un effet de nombre évidemment intéressant. Et donc, nous avons avancé du côté francophone avec une start-up qui nous a présenté de manière statique les résultats de leur expérience, qui était intéressant. Mais malheureusement, cette perspective a pris fin, sans doute à cause du fait que c'était une start-up d'une dimension réduite, et au niveau des ressources humaines et au niveau de la solidité financière par rapport à l'ampleur du projet, je pense qu'il y avait une inadéquation qui a malheureusement amené à la fin de cette expérience. J'ai ensuite été contacté par Walter Skluer, qui connaissait mon intérêt pour ces matières, qui voulait discuter, et puis qui a dit ben, ce serait intéressant, puisque nous sommes occupés à développer un outil, ce serait intéressant qu'on puisse le tester au niveau du barreau de Mons. Nous n'étions pas les premiers testeurs parce que l'outil de Walter Skluer a été mis en place avec un certain nombre de cabinets d'avocats qu'ils ont appelés des co-créateurs. Leur démarche sur le plan européen est intéressante parce qu'ils ont laissé, vous savez que c'est une entreprise à la base néerlandaise, ils ont laissé chacune des divisions nationales rechercher leurs propres moyens de développer les outils d'intelligence artificielle. Et en Belgique, ils l'ont fait, mais ils maîtrisent le processus en interne, même s'ils travaillent avec des partenaires extérieurs pour les moteurs d'intelligence artificielle. Alors que, par exemple, en France, ils ont décidé de faire une collaboration avec la société Predictis, dont nous aurons l'occasion de reparler. Alors, Walter Skluer travaillait sur la matière du droit social. Ils en étaient arrivés à la conclusion, d'ailleurs, que les algorithmes ne pouvaient pas être les mêmes pour traiter du droit social, du droit fiscal, du droit civil, du droit commercial. Il fallait donc pouvoir les différencier. Donc, ils ont travaillé sur du droit social et sur la rupture des relations de travail, avec environ 36 000 décisions. Le feedback qu'on en a eu de la part des avocats était que c'était un outil intéressant. Globalement, bon, bien entendu, il y en a qui n'étaient pas convaincus. Certains l'ont testé de manière approfondie, d'autres non. J'avais sélectionné les avocats en prenant soit des gens qui étaient des praticiens du droit social, soit des gens qui étaient orientés nouvelles technologies. Et donc, globalement, je pense que le feedback était positif. Ils estimaient que les réponses qu'ils obtenaient étaient plutôt plus pertinentes que ce qu'ils pouvaient obtenir avec leur base de données habituelle, comme par exemple Jura, qui est celle de Wolters Kluwer. Cependant, on sentait que les utilisateurs restaient un peu sur leur faim. Mon appréhension a été double par rapport à l'outil. La première, c'était de dire que, de mon point de vue, certes, c'était intéressant parce que ça donne plus qu'une base de données comme Jura. Ça vous donne, et c'est ça le caractère prédictif, les chances de succès. Et donc, vous posez votre casus, vous l'entrez dans le programme et il va vous sortir un graphique en disant, ben voilà, par rapport à la question que vous me posez, d'après la jurisprudence et les documents auxquels j'ai accès, vous avez 67% de chances de succès et 33% de risque que votre demande soit dite non fondée. Et puis on peut, de manière statistique, affiner l'analyse, notamment par ressort de cours d'appel, c'est ce que propose Legal Insight, qui est donc le produit de Kluwer. Et donc on a une analyse statistique assez fine et puis après, bien entendu, on accède aux décisions. Donc mon feedback était de dire tout d'abord, c'est encore trop proche de ce que fait une base de données éditoriale. Je pense qu'il faudrait sans doute avoir d'autres personnes que des éditeurs pour pouvoir présenter ça de manière plus inventive autrement. Et la deuxième chose qui me paraissait évidente, c'était que le nombre de décisions était sans doute trop faible pour faire vraiment tourner l'outil. Alors, quels sont les acteurs qui nous intéressent, nous Belges, quand on parle d'intelligence artificielle et de justice prédictive, à côté de Wolters Kluwer dont je viens de vous parler? L'autre éditeur historique en Belgique, Larcier, a aussi décidé de se lancer dans l'aventure. Elle l'a fait avec une start-up qui s'appelle Legal Tech for You, dont M. Friedrich est dans la salle et je le salue, qui produit un outil aussi qui donne des résultats du même type que ce que je vous ai donné, avec certaines caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'on peut avoir une carte de concepts, les concepts sur lesquels on a fait la recherche, et puis les concepts voisins. Et les concepts voisins, ça me paraît être quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui peut susciter la créativité au moment de la recherche si les premiers résultats ne correspondent pas à ce qu'on attend nécessairement. Il y a aussi au niveau belge un autre outil qui se développe actuellement mais que je n'ai pas encore vu fonctionner, si ce n'est quelques minutes la semaine passée sur un smartphone. C'est l'outil Lorenza qui a été qui est mis en place par un cabinet d'avocats bruxellois, CEW. C'est ce même cabinet d'avocats qui a déjà lancé il y a un an et demi environ un module de consultation en ligne qui s'appelle Online Lawyers. Alors la consultation en ligne existait déjà au niveau des barreaux. Plusieurs barreaux avaient une plateforme de consultation en ligne, mais ils sont arrivés avec un outil plus moderne, plus souple, tout en restant conforme aux obligations déontologiques, et qui a suscité beaucoup d'intérêt sur Internet. Et donc sur base de ce succès, ils ont décidé d'aller plus loin en s'attaquant à l'intelligence artificielle et en travaillant en fait sur base des données disponibles en Belgique, qui sont celles aujourd'hui de Juridat. Mais je n'ai pas pu tester du tout la performance de cet outil. Puis à côté de cela, vous avez évidemment des bases de données documentaires, comme par exemple lex.be, qui travaille comme un peu un Google sur toutes les données qui existent et qui ont été sur le plan juridique et qui ont d'ailleurs été primées lors du dernier électrochoc numérique. Et puis, pour nous Belges aussi, l'expérience française est importante parce qu'elle pourrait facilement s'exporter et au niveau documentaire, il y a une legal tech qui s'appelle doctrine.fr et qui, sur sa homepage, vante le fait qu'elle a encodé 7 millions de décisions. Et là, on commence à aller vers des chiffres vraiment importants au niveau du big data, sans pour autant avoir nécessairement un outil de justice prédictive derrière cette masse importante de données. Et puis, vous avez la société Predictis, qui fournit aussi, un peu sur base de ce que je vous ai expliqué pour Legal Insight, des réponses statistiques, et qui l'a fait sur base de la base de données documentaire de Kluwer. Et donc, on a des résultats qui sont aussi, qui donnent des chances de succès par rapport au problème qui est posé. qui permet d'affiner aussi par jeu de ressort de cours d'appel sur un plan territorial. Et un des intérêts de cet outil, c'est qu'il y a en bas à droite un lien qui vous met directement en contact avec les développeurs et qui permet donc, quand on a une suggestion intéressante à faire, par exemple, moi, quand j'ai vu la démo, j'ai dit oui, mais vous me dites que dans le ressort qu'à Besançon, on a 80% de décisions favorables. Mais 80% de décisions favorables, s'il y a 5 décisions, ce n'est pas très pertinent. Il faudrait que je sache aussi combien de décisions il y a. Il y a suggestion intéressante, il clique sur son bouton et la suggestion part directement auprès de ses développeurs. Donc je pense que son outil, il est un peu en avance sur ce qui existe à mon sens actuellement en Belgique. Et il est effectivement évolutif, comme le sont tous les outils qui s'intéressent à cette question. L'outil Predictis a été soumis, comme le professeur Alain vous l'a dit, à des magistrats des cours d'appel de Douai, donc la métropole lilloise, et de Rennes. Et il y a eu un communiqué, si je ne me trompe, au mois d'octobre, qui était assez déçu par rapport à l'expérience. Alors, Louis Larechaïn, qui est le promoteur de Predictis, dit ben, vous savez, les magistrats, ils sont inquiets de voir arriver ces machines qui disent le droit. Ce n'est pas ça qu'on retrouve quand on étudie le communiqué. Quand on voit le communiqué, on découvre que les magistrats ont estimé que les réponses qui étaient données n'étaient pas pertinentes, qu'elles étaient parfois farfelues. Et je pense, quant à moi, ça c'est ma déduction par rapport au communiqué qui a été donné, que le problème est le problème de la masse des données disponibles. Parce que ni en Belgique, ni en France, les données ne sont actuellement disponibles en grand nombre. Il y a des millions de décisions qui ont été prononcées en Belgique auxquelles on n'a pas accès. Il y en a, sauf pour un nombre très limité, de mémoire 36 000 pour Juridat. Vous avez un nombre très important de décisions en France, et là également, le nombre de décisions auxquelles on a accès est limité, puisque sont seuls publiés de manière systématique les arrêts du Conseil d'État et ceux de la Cour de cassation. Mais en France, ils ont pris une loi. Le 7 octobre 2016 qui prévoit en ses articles 20 et 21 le libre accès aux décisions de justice, l'open data des décisions de justice. Et le garde des Sceaux a confié au professeur Louis Cadier une mission de recommandation sur la mise en œuvre de cet open data des décisions de justice. C'est un rapport qui a été rendu à la fin de l'année passée et qui est très intéressant. Il est notamment intéressant parce que cette mission a été composée de magistrats, de représentants du barreau, de la CNIL. Donc, ils ont entendu les différents points de vue et ils ont entendu les acteurs du secteur également. Ils ont fait 20 recommandations sur l'open data et on se retrouve donc avec un rapport qui donne une piste sur la manière dont on pourrait travailler avec les données de justice. Le problème le plus intéressant et le plus complexe est celui de l'anonymisation ou de la pseudonymisation des données. L'anonymisation est définie comme étant la suppression de toutes les données d'identification des personnes sans qu'il soit possible de faire marche arrière. Donc la décision est définitivement vierge de toute donnée personnelle d'identification. Et la pseudonymisation prévoit qu'il est possible de réidentifier les personnes moyennant un apport extérieur et qui pourrait être bien entendu celui qui vient de la personne qui a procédé à cette pseudonymisation. Bien entendu, quand on parle de données personnelles mises à disposition du public par le biais de l'open data, il faut supprimer, conformément au règlement général sur la protection des données, sur base des lois actuelles, mais aussi, voyons la loi qui sera, la réglementation qui sera d'application à partir du 25 mai prochain, il faut éliminer toutes les données personnelles qui permettent d'identifier une personne physique. Mais comme vous le savez, le RGPD, il s'intéresse aux personnes physiques, pas aux personnes morales. Et donc la question